Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Marion Bartoli, avec Julien Benneteau, Simon Dutin et Pascal Duprat. Ils sont déjà tous en train de se préparer au jeu du sport tout à l'heure en fin d'émission.
Ça sert à rien de se préparer.
On vous attend. Il y a déjà des traumatismes qui se sont installés.
Et là, j'ai jamais joué, je vais découvrir.
Marion, tu es toujours compétitrice en plus, non? T'aimes pas perdre?
Oui, ça n'a pas changé.
Ça a bardé.
Ça n'a pas changé.
Dans un instant, les GG remontent le temps. On va parler de Roger Federer. Il y a 3 ans, on a pleuré. Certains d'entre nous ont pleuré quand il avait annoncé sa retraite. On va se replonger là-dedans, préparer les mouchoirs et le zapping. Vous laissez vos messages et vos notes vocales sur notre numéro WhatsApp au 06 12 424 424 et notre numéro habituel évidemment le 32 16. Je vous rappelle que vous pouvez gagner aujourd'hui 2 places pour OM PSG dimanche prochain 20h45 si vous envoyez classique par SMS au 7 32 16, classique par SMS au 7 32 16. Sport au 7 32 16 alors pour participer au jeu du sport. Mais d'abord, avez-vous encore des frissons quand vous entendez parler de l'homme le plus rapide du monde?
RMC, le ring des GG.
Voilà, c'est parti, Bolt dépasse super bien parti, c'est Gatlin qui a pris un super départ. Et Usain Bolt qui revient maintenant. Usain Bolt qui va le faire. Usain Bolt qui va le faire.
9,64.
Un 600ème de seconde. Le record du monde.
C'est parti pour la finale du 100 mètres. Kishane Thompson est bien parti. Noah Lyles sur l'extérieur, un petit peu en difficulté. Marcel Jacobs fait l'effort, mais c'est Kishane Thompson. Attention, fin de Cali. Noah Lyles devant avec 9,79. Devant Kishane Thompson, ça va se jouer au millième. Ça va jouer au millième. Et Fred Curley va monter sur la troisième marche du podium.
C'est l'épreuve reine aujourd'hui au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Finale du 100 mètres dames, 15h13. Les hommes, 7 minutes plus tard, à 15h20, à vivre en direct sur RMC sur place au Japon. C'est bien ça d'ailleurs d'avoir les 200 mètres d'affilée. Les prétendants masculins s'appellent Noah Lyles, le champion du monde et olympique en titre. Kishane Thompson, le Jamaïcain, meilleur performeur de l'année en 9,75. Ou son compatriote Oblique Séville. Le 100 mètres, ce sont des souvenirs, des émotions, des noms légendaires qu'on a certainement tous en tête. Et vous, les auditeurs, Bolt, Carl Lewis, Maurice Green, Linford Christie, Jesse Owens pour les plus vieux, vraiment. Je vous pose une question très simple, les GG. Le 100 mètres vous fait-il encore rêver? Participez au débat 32-16 et notre WhatsApp, évidemment. J'ai 3 oui et un plutôt non. 3 oui, Julien, Pascal, Simon, plutôt non. Marion, tu as pour l'instant les faveurs de nos internautes puisque sur le compte X des grandes gueules du sport, vous dites non à 62%. Le 100 mètres, moins rêvé. tout simplement, voilà. Direction le Japon d'abord, avant de débattre les amis avec Aurélien Tiersin qui nous attend sur place. Konnichiwa, Aurélien Tiersin.
Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa, c'est pas vraiment ça.
En tout cas, j'ai envie de te dire arigato gozaimasu d'être avec nous. Merci beaucoup. Aurélien, est-ce qu'on sent l'électricité dans l'air avant la finale à Tokyo?
Forcément un petit peu. Alors le stade sera plein, mais si on a les deux finales du 100 mètres le même soir, d'abord c'est parce qu'au Japon il y a le jour férié des personnes âgées lundi, donc pour ne pas gêner ce jour férié, on a mis les deux finales d'affilée ce dimanche soir. Et j'ai demandé aux journalistes japonais. Et du coup c'est pas l'événement du siècle à proprement parler, parce que j'ai demandé à Kozuke Yanagi, journaliste japonais, si le 100 mètres restait à ses yeux l'épreuve la plus importante ici.
Au Japon, le 100 mètres est une course importante, bien sûr. On a de l'espoir avec Kiryu, mais pour nous, le moment le plus fort sera le javelot féminin avec Kitaguchi. Tout le monde attend ça. La marche aussi est importante. Le 100 mètres n'arrive qu'en troisième.
Bon, alors, plusieurs stars du 100 mètres s'affichent quand même dans la ville. Il y a Noah Lyles, bien sûr, qui fait un petit kamehameha des familles issues de Dragon Ball Z à la fin de ses courses. Donc ça plaît au public japonais exactement. Après, voilà, il y a des histoires de performance. Le meilleur temps sur les séries, c'est le Sud-Africain Léot Lela, 9,87, qui sort un peu de nulle part. Kishane Thompson et Noah Lyles ont fait 9,95. Donc on est très loin de la grande période du Usain Bolt, Justin Gatlin, même Christian Coleman un petit peu plus tôt. Mais on a demandé demandé à un sprinter éliminé en tour préliminaire, un Congolais, Olivier Mouimba. Lui, il a un record en 10-28. Et pour lui, même s'il n'y a pas des perfs de pointe, le 100 mètres, c'est un sport à part que peu de sportifs sont capables de faire.
C'est un truc d'abord de ouf. Pour déclencher dans 10 secondes, c'est pas facile. Hein. C'est pas donné à une personne normale. Il faut t'entraîner. Et les entraînements, c'est très dur. Si tu es pas fort mentalement, ça va pas marcher.
Bon, quoi qu'il arrive, Thompson Lights, on a envie de voir la revanche, hein. On l'a entendu tout à l'heure, ça s'est joué au millième aux Jeux Olympiques de Paris. Mais quand même, la vraie star, c'est Usain Bolt, on l'a ramené quand même, il va faire un petit coucou sur la piste avant, parce que quand même, on pense un peu au passé quand on pense aux 100 mètres.
Non, mais s'il veut faire la course, ça, nous, moi je regarde, hein, franchement, hein, Usain. Ouais.
Il a déclaré là récemment qu'avec les équipements actuels, il aurait pu courir en 9,42, tranquille.
Ah ouais.
Il a mis un petit peu de
talent. De toute façon, il aurait couru, il s'arrêtait à 60 mètres. Donc il décélérait à 60 mètres. Donc s'il avait fait une course à fond, ils auraient fait les 9,42.
Ouais. Aurélien, reste avec nous depuis Tokyo. Le 100 mètres vous fait-il encore rêver? Parole à ceux qui partent de loin. Tiens, Pascal, ça te fait encore rêver le 100 mètres?
Oui, mais en fait, je vais pas laisser la parole tout de suite à Marion. Mais je suis surpris que Marion me dise que c'est pas intéressant ou moins intéressant que ça l'était. En fait, pour moi, c'est une épreuve mythique. Ça le restera.
Bien sûr. Voilà.
Depuis Évidemment. Que je suis gamin.
Non, dans les cours en 20 secondes, ça va être toujours aussi mythique.
Et laisse-moi, Marion, j'ai été d'une politesse envers toi, Marion, en te mettant en introduction de mon intervention. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà. Donc, je voulais simplement dire que le 100 mètres est une épreuve magique. D'autant plus, j'ai suivi l'évolution, je suis né en 62, d'autant plus qu'aujourd'hui, et depuis d'année en année, c'est de mieux en mieux filmé. On voit tout, on est à l'intérieur de la course, on se languit de voir les athlètes s'échauffer, on voit des travelling qui vous repassent la course, on voit des choses merveilleuses, comme si on était à l'intérieur même de la course. Et je dois dire une chose, quand je me remémore, c'est pas si vieux, la finale des Jeux Olympiques à Paris, où vous avez 8 athlètes qui sont dans un mouchoir de poche, puisqu'ils sont tous en dessous de 10, c'est la première fois aux Jeux Olympiques que ça se produisait. Je suis désolé Marion, tes arguments ils vont pas tenir. Alors, bien sûr, il n'y a pas Bolt, bien sûr, il n'y a pas Carl Lewis, bien sûr, il n'y a pas de Français, mais c'est mythique le 100 mètres.
Écoutons les arguments de Marion, d'abord, oui. Marion.
Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord, parce qu'effectivement, le problème de la performance, la course restera mythique parce que c'est du 100 mètres.
Ben voilà.
Et après,
bon, ben voilà,
il faut la vitesse qu'il y a avec. Non, mais il faut la vitesse qu'il y avait avec. Je suis désolée. C'est comme si tu me disais au tennis, ouais, c'est génial, c'est la finale de Roland Garros. Oui, bien sûr, c'est génial, c'est la finale de Roland Garros. Mais si dans 15 ans, on voit les joueurs qui frappent la balle 30 km/h plus doucement et se dire, non, mais attends, ouais, c'est génial parce que c'est la finale de Roland Garros. Mais là, je comprends pas parce qu'ils courent quand même beaucoup plus lentement qu'auparavant. Donc, il faut de la performance.
3,9 de moyenne au dernier Jeux Olympiques.
Non, mais il faut de la performance. Usain Bolt signe le record du monde en 2009 en 9,58, s'il te plaît. 9,58. Il décélérait sur toutes ces finales olympiques à
44
kilomètres. Entre 60 et 80 mètres. Entre 60. À partir de 80 mètres. À partir de 80 mètres au jeu, il décélérait. Il finissait systématiquement premier. C'est ça qui était mythique. Ce qui était mythique, c'est célébrations. En tout cas, ce qu'il faisait avant la course, le début de la course. Puis ensuite, le fait qu'il décélérait, le personnage qu'il était. Mais la ligne de départ auparavant, on pouvait tous vous la citer.
Donc,
je suis désolée. Entre les Gatlin. Entre les Tyson Gay, entre les Gatlin, entre les Assefa Powell.
Tyson Gay, c'est dopé. Déjà, pour moi, il ne faut pas parler.
Mais les noms, tu les connaissais. Les personnalités, tu les connaissais. Et les temps avec Usain Bolt devenaient totalement. C'est pour ça qu'on regardait. C'était pour voir quel record du monde il allait faire, quel record olympique éventuellement il allait faire, quelle médaille il allait gagner, à partir de combien de temps il allait lever les bras par rapport aux autres. Mais bien évidemment, je suis désolée quand tu vois Noah Lyles aujourd'hui courir à l'arrache de la rage en 9,79 qu'à Usain Bolt. Noah Lyles a plus d'intérêt qu'Usain Bolt. Mais tu te fous de moi. Arrêtez, s'il vous plaît.
Laisse-moi finir.
Mais 2 dixièmes d'écart. Tu veux finir de quoi? T'as 2 dixièmes d'écart. 2 dixièmes d'écart sur 100 mètres, tu veux dire que c'est la même course.
Mais dis pas n'importe quoi. Déjà, tu me laisses pas finir. Lyles, je n'ai jamais dit qu'il avait plus de notoriété que Bolt, mais déjà que les autres, que Gatlin, Gay et compagnie, je vais te dire pourquoi ils ont plus de notoriété, ces mecs-là. Parce qu'avec la nouvelle génération, il y a une super série sur Netflix où les mecs, ils deviennent super connus, le sprint, et les mecs, auprès des jeunes, ils deviennent super connus. Donc, premièrement, au niveau notoriété, ils dépassent, je te dis pas qu'ils dépassent Bolt, mais ils dépassent les autres qui sont derrière, premièrement. Deuxièmement.
Okay, donc, en dehors de Noah Lyles, cite-moi la ligne des 8 qui vont commencer à se mettre en finale de Tokyo.
Tinchen Thompson.
Mais Bolt à la finale de Pékin 2008, tu vas me dire qu'on connaissait celui qui était 6e, 7e et 8e. C'est pareil, on connaît les deux ou trois premiers.
Simon dans les starting blocks depuis tout à l'heure, c'est Maurice Greene. Vous vous rappelez quand il était comme ça, là, il bougeait les épaules, il tient plus en place.
Et puis c'est des questions de génération.
Tu peux rajouter André Legras, tu peux rajouter plein d'athlètes que tu connaissais, que tu connais pas aujourd'hui.
Mais jamais, mais Marion, ne dis pas n'importe quoi. André Legras.
Mais Marcel Jacobs, c'est
un Marcel Jacobs, à part chez lui à Rome, personne le connaît.
Enfin, bah exactement, mais justement, on est d'accord. Mais d'accord, justement, coup, donc c'est des choses récentes. Donc t'es d'accord avec moi.
Mais non, mais tu dis André de Grasse.
Ah oui, exactement.
Mais Simon, tu parles de Noah Lyles, de Kinshan Thompson. Mais c'est générationnel. Il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie, dans le sport, qui sont plus importantes que les athlètes. Le 100 mètres, c'est plus important que les athlètes. Quel que soit, c'est l'épreuve mythique. Après, la Ryder Cup au golf, c'est plus important que les golfeurs. La Coupe Davis, c'est plus important que qui la joue. Il y a des choses comme ça dans la vie, dans le sport, qui sont plus importantes que les athlètes. Et si
c'est plus important que ce qu'il a joué.
Ouais. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'elle est morte. C'est pour ça qu'elle est morte.
Arrêtez, tu parles de ça tout à l'heure.
C'est pour ça qu'elle est morte.
Simon, je rappelle, la question que l'on se pose, c'est le 100 mètres vous fait-il encore rêver? Ça vous passionne? Rêver, le mot est important. Hein. On met ça dans la dimension du rêve, donc c'est très très haut. Hein. Simon.
Il y a une dimension, tu fais bien de le souligner, qui concerne l'imaginaire, qui concerne en fait autre chose que le sport. Pascal l'a dit, c'est l'épreuve mythique en athlétisme, c'est l'épreuve mythique du sport mondial, c'est l'épreuve mythique des Jeux Olympiques, c'est l'épreuve pour laquelle le monde entier s'arrête pendant l'espace de quelques secondes tous les 4 ans pour regarder ça, même lorsque tu ne t'intéresses pas à l'athlétisme, même lorsque tu ne connais pas les noms, tu t'arrêtes, parce que le 100 mètres, ça dépasse le cadre du sport et ça dépasse le cadre des amateurs de sport. Le 100 mètres, c'est la fosse au lion, c'est la seule épreuve de sport au bout de laquelle, en 10 secondes, mais même épreuve, même au-delà du sport, c'est un des seuls domaines dans lesquels en 10 secondes, une légende peut se créer. Une légende, normalement, ça met du temps à se construire, à s'installer. Dans le 100 mètres, en moins de 10 secondes, une légende peut se créer. Alors, en effet, il y a eu une grande époque, moi, que j'ai connue, c'est Madeleine de Proust, le 100 mètres, Linford Christie, Dennis Mitchell, Frankie Fredericks, Leroy Burrell, John Drummond, Donovan Bailey, Bruni Surin, c'est des mecs, Atto Bolden, c'est des mecs. En effet, il y a eu une époque, on connaissait tous leurs noms, et ils avaient tous une chance de gagner. Mais Pascal a rappelé qu'il y a une densité qui s'est quand même reconstruite récemment. Là où je peux éventuellement à peine rejoindre Marion, c'est que il y a peut-être dans ce qui crée le mythe autour du 100 mètres une question de personnalité.
Mais oui,
Usain Bolt a écrasé parce que c'est le GOAT. Évidemment, il a les performances et la personnalité.
Tu rejoins pas Marion quand même.
Non, je rejoins pas Marion parce que lorsqu'on s'intéresse au 100 mètres, il y a quand même cette rivalité depuis 10 ans, depuis 20 ans, une espèce de classico entre les États-Unis et la Jamaïque. La Jamaïque qui est l'équivalent du sprint, qui est l'équivalent de ce qu'est la Nouvelle-Zélande en rugby, c'est-à-dire un miracle permanent, un minuscule pays qui produit des prodiges en sprint. Alors, il y a Kishen Thompson, 9,75, record perso, il est déjà all-time, top 10 all-time, voilà, à 22 ans. Il y a ce début de rivalité avec un Noah Lyles qui a, n'en déplaise à Marion, un charisme, une vraie personnalité.
Ah ouais, mais attendez, aujourd'hui, franchement, les amis, vous allez sur les Champs-Élysées aujourd'hui, qui connaît Noah Lyles?
Est-ce que ça empêche les passionnés de sport de considérer que le 100 mètres n'est pas mythique? C'est ça la question.
Mais avant, ça allait plus loin. En fait, l'homme le plus rapide du monde a peut-être été plus important qu'aujourd'hui.
Mais c'est une génération.
Jesse Owens le courait quand même en 10.2 sur une piste cendrée avec pas de starting blocks, des chaussures en cuir. Donc moi, je veux bien vous m'expliquer que 9.79, c'est la performance mondiale des 40 dernières années, mais il va falloir quand même regarder un petit peu les temps. Non.
D'accord,
que
mais Marion,
reste
Marion.
Une
Carl Lewis, c'était une pompe alors.
Ton argument, Carl Marion,
Lewis,
il tient pas, je suis désolé.
Asafa Powell en 2007 courait plus vite que Noah Lyles. En 2007. C'était il y a 18 ans par rapport à l'évolution de la préparation physique, l'évolution des pointes. Alors, on peut dire qu'Usain Bolt peut-être exagère, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il aurait couru plus vite avec l'évolution des pointes actuelles par rapport à ce qu'il avait fait auparavant, même si encore une fois, et ça faisait partie de son personnage, il décélérait avant la fin de l'arrivée tellement il avait une marge par rapport aux autres. Mais quand tu me parles du 100 mètres, t'es obligé de me parler des coureurs qui le courent. Je suis désolée.
Ah bah, je
peux
dire
que l'épreuve reste mythique. C'est pour ça que les auditeurs RMC sont pas d'accord avec vous. C'est moi qui suis en tête aujourd'hui.
Le duel Noah Lyles Kinshan Thompson, il est vachement intéressant.
Mais oui, mais Bennett,
c'est vrai, tu vas mieux l'année pour aller voir un duel de Noah Lyles contre Kitchen Thompson. Ben,
c'est peut-être
mieux l'année pour aller voir un duel par rapport
à Mulani. Il y a une légende, c'est que 10 secondes, 9 secondes, 80, ça va faire. Tout à l'heure, à 15h14 ou à
15h21,
il y aura la femme la plus rapide du monde et l'homme le plus rapide du monde qui sera célébré.
Et au-delà de ça,
c'est juste mythique.
Et au-delà de ça, c'est la seule discipline qui permet de mettre sur la carte du monde et dans la tête des gens, des pays, des îles qui n'existeraient jamais. Vous vous souvenez de Kim Collins, Saint Kitts et Nevis?
Saint Kitts et Nevis,
on a tous découvert en 2003 l'existence de Saint Kitts et Nevis.
Trinidad et Tobago avec
Sainte-Lucie. Julien Alfred, extraordinaire, merci Aurélien, évidemment, et c'est un coup de projecteur sur le monde, c'est quelque chose qui, je le maintiens, réunit le monde entier, qui, pendant 10 secondes, regarde au même endroit, et c'est assez rare pour être souligné, quel que soit le domaine, on parle même pas de sport.
Eh ben, on va regarder ça tout de suite, toujours 38%, donc ça n'a pas bougé, donc les auditeurs qui devraient écouter.
J'ai une chose aussi.
Ah, il y a une chose. Attention, c'est très important parce que ça allait de manière très dramatique. Dis-nous, Aurélien.
Bah, bien sûr, parce que alors les chronos, déjà, on est entre 9,75 et 9,90. Alors, sur le papier, ça fait pas rêver, mais sur le 110 et sur le 100 mètres, globalement, sur les sprints, les semelles en carbone n'apportent rien. Alors, pas encore, peut-être, mais pour l'instant, ça n'apporte rien. C'est une des rares disciplines où ça n'apporte pas de gain de vitesse. Et autre chose, il y a des sprinteurs qui ont été attrapés aussi pour dopage dans les 15-20 dernières années.
Eh oui.
Ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Donc, s'ils courent moins vite, un petit peu comme une période en cyclisme, on peut pas se plaindre non plus que les records soient battus en permanence si on a des doutes sur les mecs. Là, au moins, on n'a pas de doutes sur les mecs.
Mais Marion, elle s'en fout, elle préfère.
Ah, mais
tu vas me dire que Usain Bolt était dopé.
Allez, c'est terminé. Non, c'est pas ce qu'on
a dit. Tu vas me dire que Usain Bolt en 960
était dopé. Non, c'est
lui, c'est
le. Terminé sur le ring. Gatlin et compagnie.
Bon. Descendez du ring, s'il vous plaît, les GG. Ah, vous êtes chaud ce matin. Hein. C'est bien.
Ouais, j'ai quand même gagné.
Aurélien, tiens, juste rapidement, un mot sur la journée. Il y a eu des performances frustrantes pour les Français, en quelques mots.
Oui, on a eu mal à la tête à cause d'Asdin Abs, meilleur performeur mondial de la saison sur 15. Il se fait éliminer dès les séries, donc là j'avoue qu'on avait du mal à comprendre, mais ça s'est mieux passé pour Romain Mornet par exemple, qui a passé lui et qui est passé en demi-finale. Sinon, pas grand chose à signaler, si ce n'est que Jakob Ingebrigtsen, lui la méga star norvégienne, s'est mangé également, s'est planté en série du 1500, donc voilà. Et donc là on attend Jimmy Gressier sur la finale du 10 000 mètres, même si face aux Africains ça va être difficile, on est excité par ça. Et il y a la finale de la longueur, Hilary Pacha, vraie chance de médaille.
Oui,
elle a eu la deuxième meilleure perf des qualifications avec 6m85, et pourquoi pas aller titiller le record de France de Younis Barber, qui est vieux de 22 ans. Donc là, ça fera plaisir à tout le monde, ça va nous faire rêver aussi.
Formidable. Qui va gagner le 100 mètres?
Pour moi, c'est Kishane Thompson cette année. Là, en série, il a été ultra impressionnant.
15h20, la finale à suivre en direct avec toi sur RMC, évidemment, ne manquer sous aucun prétexte. On a parlé de l'homme le plus rapide du monde. Dans un instant, on va remonter le temps pour parler de l'homme le plus classe du monde, peut-être. À tout de suite dans la grande gueule du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Mario Bartoli, avec Julien Beneteau, Pascal Duprat, Simon Dutin. Dans un instant, on va ouvrir votre vestiaire. Tiens, vous allez nous dire comment le sport vous a transformé. Vous avez plein de choses à nous raconter en cette journée, cette première journée de fête nationale du sport en France. Mais d'abord, les GG remontent le temps.
Finally, to the game of tennis. I love you. And we'll never leave you.
Ladies and gentlemen, Roger Federer.
Thank you, everybody. Thank you. Love you all. It's been an amazing journey. Thank you, everybody.
Oh, parfait. Parfait. Parfait pour Jack Sock. Mais c'est pas parfait pour nous. La victoire de Jack Sock et Francis Tiafoe pour le dernier match de Roger Federer.
She could have stopped me long, long time ago. But she didn't. She kept me going and allowed me to play, so that's amazing. Thank you.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se refaire pleurer ce matin, c'est ça?
Ouais,
il y a trois ans, jour pour jour, Roger Federer nous brisait le cœur. L'homme aux 20 titres en grand chelem nous faisait parvenir un message écrit et audio pour annoncer la fin de sa carrière à 41 ans. Le tennis m'a tout donné, plus que j'aurais pu rêver. Je dois maintenant reconnaître qu'il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière. Il avait subi une troisième opération au genou droit. Il avait fait ses adieux, vous l'avez entendu, une semaine plus tard sur le terrain de la Laver Cup, la compétition qu'il a créée dans un double avec Rafael Nadal. Les deux en larmes, des images pour l'éternité. Les GG, à quel point ces adieux vous ont marqué? Tiens, Mario a pleuré, je crois. Dis-nous.
Bah, totalement, mais là en plus j'étais fortement déçu, et d'ailleurs c'est Fred Bjerg qui le dit très bien dans son sujet, c'est que c'est quand même la compétition de Roger, c'est quand même lui qui paye les joueurs pour le faire venir, c'est son dernier match, il joue avec Rafa, et t'as Jackson et Tiafoe qui franchement ça aurait rien changé à leur vie, à leur carrière, si Roger et Rafa avaient gagné ce match. En plus ils ont balle de match et ils se débrouillent de les faire perdre. Non mais franchement j'étais encore plus écœurée. J'ai trouvé l'interview réalisée par Jim Courier sur le terrain, alors il l'avait préparé de très longue date parce que j'en ai discuté très longuement avec lui. Il le savait depuis 2-3 semaines, c'était lui qui allait réaliser cette interview de Roger. Il sait très bien que Roger a tendance à être extrêmement émotif, donc il a fallu préparer longtemps les questions, mais j'ai trouvé l'hommage qu'il a rendu à la fois à sa famille, à son épouse et puis à ses fans extrêmement touchant. Et oui, qui nous manque, parce que c'était un génie du tennis absolu, que forcément ces duels contre Rafa et Novak nous manqueront à jamais.
Pascal, toi aussi, t'avais été marqué.
Oui. Alors pas pour les mêmes raisons que Marion, parce que j'ai pas cette chance d'avoir cette proximité. Moi, j'étais juste devant ma télévision, tout simplement, et j'ai été ému. J'ai aussi été ému par l'attitude, bien sûr, de Federer, qui collait au plus juste à ce qu'il a été pendant toute sa carrière. Ses mots étaient pesés, ses mots étaient d'une sensibilité incroyable. J'ai beaucoup apprécié les mots qu'il a adressés à son épouse aussi, comme quoi, il faut le rappeler, les grands champions n'échappent pas à la règle, il faut qu'ils soient très bien accompagnés pour accomplir des carrières merveilleuses. C'était en tout point remarquable, les larmes de Djoko, les larmes de son compère de double, Rafa. Tout ça, c'était émouvant, et je l'ai été. Tout simplement.
Non, mais c'était touchant parce que c'est un monument, et c'était finalement une partie du tennis avec laquelle on a beaucoup grandi qui s'arrêtait. Non, Simon, pas.
J'ai pas acheté moi les adieux à la Lever Cup avec Rafa en double.
On n'est pas les acheter.
Alors moi j'aurais préféré qu'il gagne et contre Sock et Tiafoe. En effet, c'est pas glorieux. Mais non, j'ai pas acheté pour moi les vrais adieux, la vraie tristesse. Je crois que c'est après sa dernière finale en Grand Chelem à Wim quand il passe à
Wimbledon.
Il a une balle de match ou deux. Je crois contre Djoko. Il perd en 5-7, 13-12. Tu sens que bon, c'est terminé, que la dernière chance est passée. Et là, je me suis retenu, ouais, d'écraser la larmichette, parce que derrière, tu dis, bon, c'est terminé, c'était déjà, on lui prédisait déjà que ce serait fini. Donc non, voilà, ça s'appuie un peu quand même la com. Tu l'as rappelé, c'est quand même le trophée qu'il a créé. C'était un peu trop marketing pour moi. Et d'ailleurs, le fait qu'il perde contre ces deux gars-là, Sock et Tiafoe, prouvaient que ça jouait un peu à la baballe et plus vraiment au tennis quand même déjà à ce moment-là.
Julien Benneteau, Roger Federer qui tirait sa révérence il y a 3 ans.
Le problème, c'est qu'au moment où il tire sa révérence, on s'y attend un petit peu parce que ça faisait quelques mois qu'il n'y arrivait plus, le pauvre, à cause de son genou. Effectivement, moi j'ai été beaucoup plus peiné et marqué par cette défaite en finale de ces 2019, donc il a 38 ans. Qu'il soit capable à 38 ans, quand on voit comment Djokovic aujourd'hui à 38 ans n'arrive pas à battre en grand chelem les deux autres, lui Federer, il a 2 balles de match contre le grand Djoko sur gazon, et le match qu'il fait ce jour-là, c'est monumental. Il met 5-2 ou 5-3 au cinquième, il le paume au super tie-break de 12-12, et moi cette défaite-là, je l'ai vécue limite, j'étais plus déçu que par des propres défaites que j'avais vécues, parce que vraiment ça m'avait marqué. C'était monstrueux, c'était tellement grand comme moment qu'il puisse gagner un 9e Wimbledon à ce moment-là à 38 ans. Enfin là, on se disait c'est monumental. Sur ses adieux à la Lever Cup, il fallait bien que ça arrive un jour, le fait qu'il l'officialise, le fait qu'il arrête le tennis, mais comme on s'y attendait un petit peu depuis quelques semaines, voire quelques mois, ça m'a moins touché à ce moment-là que l'ensemble de sa carrière et tout
parce
ce qu'il a fait.
Parce que t'étais préparé.
Ouais, en fait c'est ça, exactement.
Mais les larmes de Nadal, de Djoko, tout ça.
Non, moi c'est ça qui m'a touché le plus.
Ouais, Federer Nadal, parce que c'est là où tu t'aperçois que
c'est des acteurs les mecs. En fait, alors.
Non, je pense pas que. Non, je pense qu'ils ont été tous les deux rattrapés par l'émotion à ce moment-là, parce que je pense que leur l'histoire, leur rivalité qui s'est transformée en histoire. Je pense qu'ils ont pris conscience tous les deux à ce moment-là que c'était terminé et qu'ils avaient écrit l'une des plus grandes pages de l'histoire du sport ensemble.
Tiens, c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, vous aussi, au 32-16. On a Taureau, un fan de tennis, qui nous appelle. Salut!
Hello tout le monde, salut à tous.
Taureau qui n'est pas un fan de Rafael Nadal, hein, peut-être.
Je suis un grand admirateur de Rafael Nadal, mais j'ai beaucoup de respect pour ces trois extraterrestres qu'on a eus.
Bon, ça t'avait marqué en tout cas il y a 3 ans quand il a arrêté Federer.
Oui, ça m'avait marqué parce que ces trois joueurs-là, ces trois extraterrestres, et on va parler de Federer plus particulièrement, c'est des joueurs qui resteront gravés à jamais, ils ont gravé l'histoire du tennis à jamais. Ils sont éternels dans la légende, dans l'histoire de ce sport. Et je pense que 100 ans encore après, on en reparlera encore de Federer, Nadal, Djoko.
T'as de la chance, toi, dans 100 ans, tu seras là?
Oui, normalement, j'ai fait mes calculs, normalement, oui.
Non mais c'est vrai, c'est intéressant d'écouter...
Non mais il a raison sur l'empreinte. L'empreinte laissée sur le tennis à jamais sera bien évidemment indélébile parce que les records qu'ils sont allés chercher, et c'est pour ça que je pense qu'Amélie Mauresmo a une idée absolument géniale d'avoir cette plaque sur le court Philippe Chatrier à Roland-Garros, c'est parce que on ne peut pas... imaginez que c'était envisageable d'arriver à atteindre des chiffres pareils. Lorsque Pete Sampras arrête sa carrière avec 14 titres du Grand Chelem, on se dit que ça sera totalement inatteignable. Et il y a 3 joueurs qui ont eu 20 tournois du Grand Chelem ou plus. C'était totalement inenvisageable jusqu'au début des années 2000.
Non mais
ils sont arrivés, ils ont poussé le tennis dans une autre dimension. Et si aujourd'hui on a Sinner et Alcaraz, c'est parce qu'il y a eu Nadal, Federer et Djokovic. Ils ont engendré chez les joueurs de tennis actuels, il y a un mimétisme par rapport à ces trois joueurs qui est flagrant. Quand on voit Sinner et Alcaraz jouer, il y a totalement des techniques qu'ont utilisées Federer, Nadal et Djokovic. Et pour ça, et pour tout le reste, ils seront éternels dans la légende du tennis.
Non, mais je pense que ce qui touche il y a 3 ans quand Federer arrête aussi, c'est justement un peu ce que tu dis, Marion, c'est que c'est le début de la fin de ces trois-là, en fait. Je pense qu'on réalise tous que ça y est, on est en train d'arriver à la fin de Federer, Nadal et Djokovic et d'une ère du tennis. Donc, c'est pour ça que on a quelque chose qui nous touche un peu plus aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour l'amateur de tennis, mais c'est peut-être pas l'expert qui parle, mais pour l'amateur de tennis, le fait que Federer s'arrête, oui, c'est le signe que cette hégémonie de ces trois grands champions, eh bien, va disparaître. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une époque légendaire, de trois garçons qui se sont tirés la bourre pendant 20 ans pour obtenir des titres à n'en plus finir, laissant que les petites parties infimes aux autres joueurs.
Enfin, tout ça s'est fait progressivement, parce que il y avait eu le Big Four, on n'oublie pas Andy Murray, qui n'a pas atteint les altitudes quand même des trois autres, mais à une époque ils ont quand même été quatre. Federer, Julien l'a rappelé, on le sentait arriver, on le redoutait. Les deux dernières saisons qu'il a joué sur le tour, c'était à chaque fois déjà un petit bonus, quoi. C'était la tournée d'adieu, on le redoutait en effet. Donc chaque fois qu'il gagnait un match, c'était un événement. Lorsqu'il s'alignait sur un gros tournoi, c'était déjà en soi un événement. Donc la Lever Cup, je veux dire, on l'a quand même senti arriver de loin, et ses adieux, on s'y préparait. Le deuil, je pense qu'on l'avait déjà préparé. Ah oui, quand même.
On l'avait préparé parce que en fait, à la fin, sur les deux dernières années, on va dire 21-22, c'est plutôt Nadal, Djokovic.
Ouais.
Il y a eu des matchs légendaires à Roland qui ont fait perdurer le fait que ces trois-là marquent l'histoire. C'était plus le duel à la fin Nadal-Djokovic.
Ouais, Roger, il était déjà plus là.
En même temps, il avait 38 ans.
Bien sûr,
Julien,
il est préparé au fait
qu'il a pris de l'âge.
Ah oui, il avait 5 ans. Il a 4-5 ans de plus que les autres. C'est pour ça. Normal qu'il y ait celui qui parte le premier.
On remercie Thor d'avoir appelé au 32-16 et partagé son émotion de la retraite de Roger Federer. Tiens, rapidement, je vous rappelle, en fin d'émission, venez jouer avec vos GG dans les Jeux du Sport. Ce week-end, participez et remportez votre PC portable 16 pouces de la marque française Altic, appelé le 3216 touche 4 3216 touche 4, ou envoyez sport au 73216, sport au 73216. Dans quelques instants, vous me dites si on s'en fout ou on s'en fout pas. C'est le zapping des grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Pascal Duprat, Simon Dutin, Julien Beneteau, Marion Bartoli. Tiens, on passe un petit coucou à Titouan qui a appelé sur le WhatsApp de les grandes gueules du sport. Titouan qui nous dit j'adore RMC, j'écoute tous les jours et j'ai 12 ans. Bah, c'est bien, Titouan, on te salue et évidemment on est heureux de t'accompagner tous les
WhatsApp,
jours.
WhatsApp à 12 ans.
Bah ouais, peut-être qu'il a demandé à papa, maman, je vais absolument envoyer un message au GG du sport.
Hein, d'accord.
06 12 424 424 pour nous envoyer des messages. Allez, tout de suite, vous me dites on s'en fiche ou on n'en s'en fiche pas ?
Le zapping des grandes gueules du sport.
Parce que c'est peut-être un peu plus poli que je m'en fous, je m'en fous pas. Si on a des gamins de 12 ans qui nous écoutent, ça me fait réfléchir. Vous me dites, je m'en fiche ou je ne m'en fiche pas ? Le 15 de France féminin joue son quart de finale de Coupe du Monde aujourd'hui face à l'Irlande à 14h à suivre sur RMC. Pascal ?
Je ne m'en moque pas.
Marion ?
Non, je ne m'en moque pas non plus.
Est-ce que tu t'en moques ou tu ne t'en moques pas, Simon Dutin ?
Je m'en fous pas.
Ah, oh là là, Julien ?
Ouais, non plus, je m'en fous pas.
Allez, on prend la direction d'Exeter pour retrouver Pierre Thévenet. Il a sa maison maintenant là-bas. C'est la troisième fois qu'il y va pendant cette Coupe du Monde. C'est lui qui va vous commenter ce match avec Lénaïque Corson. Salut Pierre !
Salut Georges, salut à toutes et à
tous. Salut Pierre.
Nos bleus sont favorites pour ce match ?
Oui, sur le papier, largement. Elles ont plus perdu face à l'Irlande depuis 2017 et surtout ont atteint le dernier carré 8 fois sur les 9 éditions de la Coupe du Monde qui ont été jouées. L'objectif avant la compète, c'était clairement d'atteindre cette demi-finale, peut-être face à l'Angleterre, sans doute face à l'Angleterre le week-end prochain. Hier, la Nouvelle-Zélande et le Canada ont tenu leur rang. Tout semble vraiment tracé pour que ces 4 meilleures équipes se retrouvent en demi-finale. Mais écoutez, la talonneur Agathe Gérin, elle est évidemment prudente.
Que c'est écrit, je pense que ça serait mal connaître le rugby et ses aléas et les phases finales et les matchs couperés. Ouais, il faut quand même le gagner avant tout. Et l'Irlande, c'est une nation qui est un peu pénible à jouer, qui est très solide dans les rucks, qui peuvent tenir le ballon longtemps, assez stratégique aussi. On espère réussir à répondre dans le combat pour mettre en place notre jeu et prendre le score. C'est l'objectif en tout cas.
Cet après-midi, les Bleus auront le public. Contre elles, on attend beaucoup, beaucoup de supporters irlandais à Exeter. Il faudra faire avec les conditions également. On est en Angleterre. Donc évidemment, il y a du vent, il fait froid et il pleut ce dimanche après-midi sur le sud de l'Angleterre.
Merci Pierre. On se retrouve évidemment 14h pour le match des Bleus. Il faut absolument regarder ce match et l'écouter, hein, Simon.
Ah, bien entendu, puisque je serai à ta place pour animer l'intégral sport. Voilà.
Ah,
voilà,
d'accord. Bah, je le mec, il ramène tout à lui.
Non, mais évidemment, on va vivre ça sur RMC. Et puis je vais voir si Pierre Thévenet connaît bien son rugby féminin, parce que avant qu'il parte, 15 jours avant le début de la compétition, il m'a dit c'est demi, c'est rien d'autre que demi, France, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Canada. Je veux rien savoir. Donc je l'attends.
Pour l'instant, c'est bon.
Je l'attends. Ouais, pour l'instant, t'as tout bon, mon Pierrot, mais justement, on va voir ça cet après-midi. Mais pas de blague, tu t'as rappelé que ça fait quand même 8 ans qu'on n'a pas perdu contre l'Irlande. Ce serait dommage que ça commence aujourd'hui.
Pascal,
que ça recommence.
Match piège par excellence, vous l'avez rappelé. Donc en Angleterre, sous la pluie, avec des Irlandaises qui vont être bien soutenues. Moi, j'ai hâte de voir, je l'espère, donc cette victoire, parce que je mettrai une pièce en demi-finale sur la France contre l'Angleterre.
Ah ouais, tu penses que ça va être le moment, c'est là où on va.
Je le sens, je le pressens. Et le match amical d'avant Coupe du Monde a été fait pour ça. J'ai l'impression que
le scénario. Ils sont traumatisés,
donc. Une valise quand même.
On a pris une valise, bien entendu. Ouais. J'ai suivi, mon cher Simon. Non,
bien sûr. Merci Pierre Thévenet. Tiens Marion, d'ailleurs, tu sais qu'on aura une joueuse, un membre du staff du 15 de France ce soir.
Mais moi, j'ai hâte de voir le retour de la joueuse irlandaise Wafer, parce qu'elle a été blessée au genou. Et c'est elle qui avait été élue quand même meilleure joueuse du dernier tournoi Destination l'année dernière.
Bien sûr.
Devant l'anglaise Abido et devant la française.
Au casque rouge, cette joueuse. Elle a
donc,
un casque rouge.
Donc ça va être intéressant de voir son retour aujourd'hui.
Vous avez vu Pascal, comme il connaît la radio.
Il est là,
hein, il faut dire le casque rouge, voilà, comme ça on l'identifie. On n'a pas l'image, mais au moins on a l'imaginaire, finalement, qui nous accompagne pour comprendre ce match. 14h, France-Irlande. Allez, on zappe. Je m'en fiche ou je ne m'en fiche pas. Du vélo, Jonas Vingegaard va remporter ce soir une Vuelta mouvementée qui arrive à Madrid aujourd'hui. Marion.
Je m'en fous pas.
Julien.
Je m'en fous.
Waouh, honnête. Simon.
Je m'en fous pas.
Pascal,
je m'en fous pas.
Le Danois s'est imposé au sommet de la Bola del Mundo hier et va remporter son premier tour d'Espagne avec 1 minute 16 d'avance sur Jean Almeida. Première victoire dans un grand tour pour le Danois depuis la grande boucle 2023. Tiens, pourquoi vous en foutez pas, Marion, pourquoi tu t'en fous pas?
Mais ça reste toujours un grand tour, donc c'est toujours intéressant de suivre. Après, il y a eu effectivement pas mal de sujets pendant cette Volta, mais que Vingegaard la remporte, qu'il arrive finalement aussi peut-être à venir un peu plus concurrencer Pogacar sur les autres grands tours qui vont arriver, ça c'est intéressant. Donc non, je m'en fous pas.
Ouais. Vingegaard,
il est favori,
de retour,
il gagne,
en grand patron.
Bon, un grand patron, c'est beaucoup dire quand même, parce que j'ai envie de souligner quand même qu'il y a eu match avec Almeida, qui est quand même le Grégario habituel de Pogacar. Oh, donc on peut imaginer que Pogacar aurait rincé tout le monde s'il avait été là. Non, moi ce qui m'a plu, c'est que il a été critiqué justement. On disait bon, il est pas si fort que ça. Ça s'est joué au bonif. Et finalement,
hier, ça s'est joué à la pédale.
Mais hier, justement, il a fait preuve de panache, d'audace. Il a attaqué, il est allé gagner l'avant-dernière étape en solitaire. Il a prouvé qu'il méritait sa victoire. Et sauf accident, il sera sacré à Madrid. Et en effet, ça va compléter les trophées sur la cheminée. Il faudra qu'il aille planter au Giro et il aura sa place dans les tout meilleurs de l'histoire.
Pascal. Moi, je voulais juste parler que de sport, mais parce que j'ai vu les 40 derniers kilomètres hier, c'était juste incroyable. Ouais. Les paysages, la dernière ascension, les 3 derniers kilomètres, c'était sur du gravier. Franchement, c'était génial.
Dernier kilomètre sans spectateur pour arriver tout là-haut, la Bola del Mundo, on aurait dit le vent tout. Tiens, la course a encore été perturbée par les manifestants pro-palestiniens hier qui ont voulu bloquer le peloton à 19 kilomètres de l'arrivée. Edgar Grollo sera à l'arrivée à Madrid ce soir. Salut Edgar.
Salut Georges, salut tout le monde.
Alors, est-ce qu'on s'attend à une dernière étape perturbée dans la capitale espagnole? On voulait en parler avec toi.
Oui, jamais dans l'histoire de la Vuelta, autant de membres des forces de l'ordre n'avaient été déployés. 1100 policiers nationaux, 800 de la police municipale, 400 membres de la garde civile. Tout Madrid va être surveillé vraiment de très très près pour éviter les débordements aujourd'hui. Ça n'a pas plu à une partie de la classe politique en Espagne. Le parti Podemos dénonce une capitale militarisée. Il appelle même à un déferlement de milliers de manifestants à Madrid. Alors, quoi ça va ressembler? Déjà, les manifestations vont commencer bien avant l'arrivée dans la capitale. Il devrait y avoir un rassemblement pro-palestinien dès le départ de l'étape à l'Alpardo. Ensuite, les rassemblements les plus importants à Madrid sont prévus à des points iconiques de la ville, la fameuse place de Cibeles, le Palais Royal ou encore la gare d'Atocha. Ça va être un casse-tête pour les organisateurs et l'étape puisque les coureurs effectueront une boucle pendant la fin de l'étape. Plusieurs points chauds qu'il faudra donc sécuriser 9 fois d'affilée.
Merci beaucoup Edgar. Dernière étape de la Vuelta à suivre évidemment sur RMC. Arrivée finale normalement aux alentours de 19h30. On zappe. Je m'en fous pas. On boxe le français Christian Billy a conservé sa ceinture des super moyens à Las Vegas la nuit dernière. Simon ?
Bravo, mais je m'en fous.
Pascal ?
Bon, je m'en fous pas.
Ouais. Julien ?
Comme Simon.
Marion ?
Non, je m'en fous.
Fiche. Tiens, rapidement, Pascal, je rappelle, il a gagné. Il a conservé sa ceinture WBC par intérim. Match nul face au Guatemaltec Lester Martinez. On pensait qu'il allait peut-être affronter Canelo Alvarez à son prochain combat, sauf qu'il a été battu, Canelo, par l'Américain Terence Crawford, l'Américain qui avait monté 2 catégories. Un mot, Pascal, rapidement.
Oui, il y a juste un truc qui m'a heurté, c'est qu'il est rentré sur le ring avec un drapeau du Québec. Donc je piche pas.
Billy. Il s'entraîne beaucoup au Canada.
Je piche pas. Voilà, c'est tout. Petite remarque.
On va le suivre, Christian Billy, évidemment, s'il y a un combat important qui arrive pour lui. On zappe. Tiens, vous me dites, je m'en fous pas. Thierry Riner réaffirme que s'il entre en politique, c'est pour être président de la République. Bennett.
Qui reste sur Netflix à tourner manège.
Marion.
Non, je m'en fous pas.
Simon.
Je m'en fous pas.
Pascal.
Je m'en fous.
Interview à l'AFP hier depuis le Japon. Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer les choses. Pour moi, le meilleur rôle, ce serait d'être président. Ça avait déjà fait le buzz il y a quelques semaines, donc il a remis une pièce là-dedans. Il parle aussi de l'importance d'avoir un entourage qualifié comme il l'a eu en sport. Marion, tu t'en fous pas?
Mais non, je m'en fous pas parce qu'effectivement, on pense tous qu'il y a des réformes qui sont nécessaires et importantes pour notre pays et que peut-être que les politiques actuelles ou que le système politique actuel n'y parvient plus. Donc pourquoi pas avoir finalement quelqu'un qui ne vient pas du tout de ce serail là. Alors je dis pas que Teddy Riner doit être absolument président de la République, mais moi je veux pas de balayer comme ça d'un revers de main en disant c'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut être plus ouvert d'esprit que ça, et je dis pas que ça sera forcément Teddy Riner la bonne personne, mais en tout cas essayer d'avoir une ouverture de champ plus importante pour arriver finalement à ce qu'il y ait quand même des réformes extrêmement importantes qui soient mises en place dans votre pays.
Il faut s'intéresser à des sportifs qui s'impliquent en politique. Simon, rapidement, tu le rajoutes.
Moi, justement, nonobstant le respect que j'ai pour l'immense champion qui est la légende du sport, je pense qu'en effet, c'est ridicule et que ce n'est pas la bonne personne que pour être président de la République, il y a quand même un parcours, une formation et je pense des connaissances ultra, ultra techniques qu'un sportif de haut niveau n'a pas le temps d'acquérir durant sa carrière.
Georges Jouet était président du pays.
Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bon, vous ne serez pas d'accord. On remercie Julien Beneteau pour son air zapping. Il a été exceptionnel.
Non, un petit chelem. Je n'ai pas fait air zapping. France-Irlande, ça m'intéressait. Un petit chelem, pas un grand chelem.
Allez, dans quelques instants, on ouvre la porte de votre vestiaire. Comment le sport vous a-t-il transformé? Ça, c'est la fête nationale du sport aujourd'hui pour la première fois. On revient dans quelques instants sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.